C'est un petit garçon qui raconte un peu sa vie chez lui et à l'école.
Moi, je le connais, le livre.
Ouais, je l'ai lisé quand j'étais vraiment petit, hein. C'était les premières lectures.
Moi, je connais en dessin animé.
Il faisait que des bêtises, non, je sais pas.
Avec ses copains. Le petit Nicolas, il dit que l'autre, c'est le chouchou de la maîtresse.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme j'ai pensé à lui cette semaine, je suis sûre qu'il se serait bien payé ma tête le jour de la rentrée quand j'essayais de prendre une photo. Il fallait qu'on voie les cartables, mais aussi les sourires et l'impatience de mes enfants. Je voulais qu'ils aient l'air sages, mais pas trop. Turbulents, mais pas trop. Je voulais qu'ils soient mignons. Bref, j'étais ridicule, mais c'est la faute de WhatsApp et d'Instagram. Oui, Nicolas m'aurait trouvé grotesque, et grâce à lui, j'ai posé mon téléphone, et puis on est parti à l'école. Le petit Nicolas est le héros de Barbatruc, une émission pour les enfants et pour tous ceux et toutes celles qui l'ont été un jour. Le regard de ce gosse sur le monde des adultes est lucide et hilarant. Il n'en fait qu'à sa tête, il prétend qu'il est bien sage, sa mauvaise foi est légendaire. Est-ce pour cela qu'on l'adore ? Ou pour la façon dont il nous raconte des histoires? Comment expliquer surtout qu'il nous parle toujours plus de 60 ans après sa création par deux génies, Sempé et Goscinny? On va essayer de lire entre les lignes avec mes invités et puis écouter des extraits de ses aventures. Pourquoi se priver? Il est petit pour toujours, Nicolas. Ses histoires fredonnent la petite musique de l'enfance. On retrouvera aussi Denis Chessou en fin d'émission pour L'as-tu lu, mon petit loup, l'actualité du livre pour enfants. Soyez les bienvenus, on se raconte des histoires.
Barbatruc.
Dorothée Barba.
Sur France Inter.
Bonjour Anne Goscinny.
Bonjour.
Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Vous êtes écrivaine pour les adultes et pour les enfants. Vous avez publié 7 romans et une série de livres jeunesse avec la dessinatrice Catel. C'est le monde de Lucrèce qui fait un carton en librairie. On verra tout à l'heure qu'elle est un peu la cousine du petit Nicolas. Votre patronyme est un indice fiable. Vous êtes la fille de René Goscinny. C'est vous qui gérez l'œuvre de votre père, œuvre pléthorique. Est-ce qu'on aura assez d'une heure, à votre avis, pour comprendre pourquoi le petit Nicolas est aussi attachant?
Moi, je crois qu'il faut une vie et celle d'après pour le comprendre. Et en même temps, il faut un quart de seconde pour s'y attacher.
Le plus drôle, vous me direz si je me trompe, le plus drôle dans Petit Nicolas, c'est quand la maîtresse ou le surveillant perdent totalement le contrôle de la classe. Aussi tenais-je à inviter un prof pour avoir son regard. On va causer discipline avec vous. Bonjour Alexis Potchke.
Bonjour Dorothée.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur d'un roman formidable paru l'an dernier au Seuil, Rappeler les enfants. Et vous êtes surtout prof de français dans un collège de banlieue parisienne. Comment s'est passée la rentrée ?
La rentrée s'est plutôt bien passée, en dépit de l'obligation faite aux élèves de devoir porter un masque et aux enseignants aussi. C'est un grand plaisir pour nous enseignants de retrouver enfin de vraies classes, des classes complètes avec un programme qui peut recommencer, une année qui recommence en espérant qu'elle se termine bien.
Vous avez quelle classe cette année d'ailleurs ?
Des sixièmes et des troisièmes.
Donc ils sont a priori un peu plus grands que le petit Nicolas, encore que. Sait-on vraiment quel âge il a ? En quelle classe est-il ? Où habite-t-il ? C'est un peu la fiche de renseignement de rentrée scolaire que je vous demande de remplir, Anne Goscinny.
Écoutez, d'après mes savants calculs, d'après mes recherches et d'après mes souvenirs, je dirais qu'il a entre 8 et 9 ans.
D'accord.
Et si on devait lui assigner une classe, je dirais qu'il est entre le CE2 et le CM1. Ça n'est jamais dit. À mon époque, on disait qu'il est entre la 9e et la 8e. Ça parlera à tous les vieux comme moi.
René Goscinny et Jean-Jacques Sempé tenaient-ils à cette dose de mystère ?
Alors, Jean-Jacques Sempé, je ne peux pas parler en son nom. En revanche, je reconnais là une espèce de procédé qui fait que l'enfant peut lire le petit Nicolas à 7 ans et s'y identifier, et peut continuer à le lire à 11-12 ans et continuer à s'y identifier. De même qu'il n'est pas localisé. Je peux pas vous dire, il est à Paris, il est à Bordeaux, qui est la ville natale de Jean-Jacques Sempé, Buenos Aires qui est celle de mon père. Il n'est pas en Argentine, il n'est pas à Bordeaux, il n'est pas à Paris, il est partout ou il est nulle part. En l'occurrence, je pense moi qu'il est en nous tous, donc il est partout.
Vous précisez l'Argentine parce que votre père y a passé une partie de sa jeunesse.
Absolument.
C'est assez fascinant.
Paris a passé 20 ans, oui.
20 ans même, carrément.
Oui.
C'est assez dingue de constater qu'il est devenu l'un des emblèmes de la France. Goscinny, créateur d'Astérix, du petit Nicolas, de Lucky Luke. Et pourtant, il a vécu la majeure partie de sa vie à l'étranger.
Mais les parents de mon père ont été naturalisés français 10 jours avant sa naissance. Tous les deux juifs, l'un polonais, l'autre russe. Sa mère ayant fui les pogroms en Ukraine. Et puis, mon grand-père a eu un poste d'ingénieur chimiste à Buenos Aires et a fait venir sa famille, bien lui en a pris, en 1928. Et donc, mon père a eu une enfance argentine et il a fait toutes ses études au collège français de Buenos Aires, donc qui parlait évidemment espagnol, mais aussi, il a fait ses études en français. Et le petit Nicolas, il me paraît que c'est évident qu'il y a beaucoup de ses souvenirs argentins, également les souvenirs de Jean-Jacques Sempé, que Sempé lui racontait. C'est un drôle de mélange entre une enfance bordelaise et une enfance cosmopolite. C'est peut-être aussi pour ça que
ça marche. Je me tourne vers l'enseignant, Alexis Pochke. Comment qualifier cet élève, le petit Nicolas? Comment le présenteriez-vous à vos collègues en salle des profs? Entre collègues, on se fait des petits commentaires dès qu'on a reçu sa liste des élèves. Oh là là, celui-là, non, tu vas voir, c'est l'enfer.
Je ne le fais pas. J'évite le plus possible de le faire. Je pense que j'en dirais du bien. Je dirais qu'il faut l'avoir dans sa poche.
Alors que Clotaire...
J'en dirais du bien aussi et je dirais de la même manière qu'il faut l'avoir dans sa poche.
Et si on écoutait une première histoire?
Quand Clotaire est arrivé à l'école ce matin, nous avons été drôlement étonnés parce qu'il avait des lunettes sur la figure. Clotaire, c'est un bon copain qui est le dernier de la classe. Et il paraît que c'est pour ça qu'on lui a mis des lunettes. C'est le docteur, nous a expliqué Clotaire, qui a dit à mes parents que si j'étais dernier, c'était peut-être parce que je voyais pas bien en classe. Alors, on m'a emmené dans le magasin à lunettes, et le monsieur des lunettes m'a regardé les yeux avec une machine qui ne fait pas mal, il m'a fait lire des tas de lettres qui ne voulaient rien dire, et puis il m'a donné des lunettes, et maintenant, bing, je serai plus dernier. Moi, ça m'a un peu étonné, le coup des lunettes. Parce que si Clotaire ne voit pas en classe, c'est parce qu'il dort souvent. Mais peut-être que les lunettes, ça l'empêchera de dormir. Puis c'est vrai que le premier de la classe, c'est Agnan. Et c'est le seul qui porte des lunettes. Même que c'est pour ça qu'on ne peut pas lui taper dessus aussi souvent qu'on le voudrait. Agnan, il n'a pas été content de voir que Clotaire avait des lunettes. Agnan, qui est le chouchou de la maîtresse, a toujours peur qu'un copain soit premier à sa place. Et nous, on a été bien contents de penser que le premier maintenant, ce serait Clotaire, qui est un chouette copain. T'as vu mes lunettes? A demandé Clotaire à Agnan. Maintenant, je vais être le premier en tout, et ce sera moi que la maîtresse enverra chercher les cartes et qui effacerait le tableau. La 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 l'air, la 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 l'air. Non, monsieur, a dit Agnan. Le premier, c'est moi. Et puis d'abord, t'as pas le droit de venir à l'école avec des lunettes. Un peu que j'ai le droit, tiens, sans blague, a dit Clotaire. Et tu ne seras plus le seul sale chouchou de la classe. La 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 l'air, la 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 l'air. Et moi, a dit Rufus, je vais demander à mon papa de m'acheter des lunettes et je serai premier aussi. On va tous demander à nos papas de nous acheter des lunettes, a crié Geoffroy. On sera tous premiers, on sera tous chouchous. Alors ça a été terrible, parce que Agnan s'est mis à crier, à pleurer. Il a dit que c'était de la triche, qu'on n'avait pas le droit d'être premier, qu'il se plaindrait, que personne ne l'aimait, qu'il était très malheureux, qu'il allait se tuer. Et le bouillon est arrivé en courant. Le bouillon, c'est notre surveillant. Et un jour, je vous raconterai pourquoi on l'appelle comme ça. Qu'est-ce qui se passe ici? A crié le bouillon. Agnan, qu'est-ce que vous avez à pleurer comme ça? Regardez-moi bien dans les yeux et répondez-moi.
Ils veulent tous mettre des lunettes, lui a dit Agnan en faisant des tas de hoquets.
Le bouillon a regardé Agnan, il nous a regardé nous, il s'est frotté la bouche avec les mains et puis il nous a dit: regardez-moi tous dans les yeux, je ne vais pas essayer de comprendre vos histoires. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si je vous entends encore, je sévirai. Agnan, allez boire un verre d'eau sans respirer. Les autres, à bon entendeur, salut. Et il est parti avec Agnan qui continuait à faire des hoquets. Dis, j'ai demandé à Clotaire, tu nous les prêterais tes lunettes quand on sera interrogé? Oui, et pour les compositions, a dit Mexan. Pour les compositions, je vais en avoir besoin, dit Clotaire. Parce que si je suis pas le premier, papa saura que je n'avais pas mes lunettes. Et ça va faire des histoires, parce qu'il n'aime pas que je prête mes affaires. Mais pour les interrogations, on s'arrangera.
Formidable interprétation signée Édouard Baird, qu'on a reconnu bien sûr. C'est un livre audio chez Gallimard Jeunesse. Anne Goscinny, ce personnage du petit Nicolas, il est né en 1959 et il nous fait toujours marrer, on le constate. Hein. Est-ce que ça ressemble à une vraie enfance, ce que racontent ici Goscinny et Sempé?
Moi, je crois que le petit Nicolas a tous les ingrédients d'un conte de fées. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est un monde en vase clos. C'est une espèce de bulle sur laquelle l'histoire avec un grand H n'est pas passée. D'ailleurs, il y a quasiment aucun média, mais il y a quasiment pas de radio, pas de télévision, ou juste une fois, mais elle marche pas. il n'y a pas de... Enfin, y a le père lit le journal, mais enfin, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Donc, c'est un monde préservé du monde.
C'est hors sol.
Et voilà. Et je pense que c'est sans doute là une, ce qu'on pourrait qualifier comme une composante du conte de fées. C'est-à-dire que c'est un conte de fées sans baguette magique, où le merveilleux s'appellerait l'amour de, des parents, l'amitié entre les copains, la fascination qu'on a pour la maîtresse, le début de sentiment peut-être un peu amoureux qu'on peut avoir pour elle, parce que souvent Nicolas dit qu'elle est drôlement chouette, la maîtresse.
Et il dit beaucoup de choses sont drôlement chouettes. Hein,
voilà, et qu'elle est aussi drôlement jolie, la maîtresse. Et c'est une apprentissage de l'autorité parfois injuste. Enfin, mais on a les composantes du conte de fées pour moi. C'est absolument pas réaliste. C'est une histoire dans laquelle, vous l'aurez remarqué, il n'y a jamais de menace de divorce. Les parents s'engueulent, mais ils divorcent jamais. La réconciliation se fait toujours autour d'une tarte aux pommes faite par la maman, et tout le monde est toujours heureux. Il n'y a pas de menace. Voilà, c'est un monde sans menace.
Alexis Potchke, le petit Nicolas est-il intemporel ou démodé ?
Absolument intemporel. Comme le disait Anne, c'est vraiment le... Ça fonctionne en vase clos, c'est le vase clos de l'enfance. Et effectivement, il y a les marqueurs temporels par rapport à l'époque sont très peu présents. Alors on a deux trois choses qui peuvent amuser les lecteurs d'aujourd'hui, comme l'appareil de photo ou alors effectivement l'absence absolue de médias.
En fait, quand
on lit et quand on lit le petit Nicolas, en fait, on se plonge pas dans une époque, on se plonge dans une période, la période de l'enfance. Et quand on ouvre n'importe quelle histoire, finalement, on se replonge dans cette période. On ne sait pas vraiment à quel moment de la période, mais on est dedans comme si toutes les histoires se passaient en même temps et qu'on pouvait indifféremment ouvrir telle ou telle histoire pour retrouver le confort de l'enfance.
Écoutons ce qu'en pensent les enfants de 2020. Caroline Pomès leur a tendu son micro dans les rues de Bordeaux.
C'est écrit dans les années 60, donc c'était calqué sur la vie à la maison de l'époque. Donc non, ça ressemble pas du tout à mon domicile. Ouais, je trouve que c'était un peu stéréotypé, donc non, pas du tout. On voit, il lit le journal, il me semble, et il fume la pipe. Je crois qu'il regarde même les matchs de football, des choses comme ça. Donc ouais, c'est vrai, je trouve ça cliché.
Bah, c'était un petit peu bourge hein, quand même dans l'école. Ils étaient tous avec leurs petites mallettes. On voyait que les parents de certains enfants étaient... Ça se voyait qu'ils avaient de l'argent. Parce qu'il y avait même... Il y avait même des épisodes où il y avait, je crois que c'était le petit Nicolas, qui était chez Marie, je sais plus quoi, et qui avait cassé des trucs chez elle ou un truc comme ça, oui.
Oui, c'était un peu plus bourge, comme on peut dire.
Et le mot est lâché par ses adolescents et ses adolescentes. Ils sont un peu bourges, les camarades de classe du petit Nicolas, Alexis Potchke.
Sont-ils vraiment bourges ? Moi, j'ai plutôt l'impression que ça tient d'autre chose, l'idée leur regard qui se porte dessus en disant « Tiens, c'est bourge ». Si vous voulez, moi, quand je fais écouter des films un peu vieux à mes élèves, hein, quand je leur montre des films et que les personnages parlent, ils vont avoir tendance à me dire « Dis donc, ils parlaient bien ». Et c'est pas vraiment qu'ils parlaient bien, ils parlaient pas forcément mieux que eux ne parlent aujourd'hui, mais puisque c'est daté, comme le phrasé a changé, ils s'imaginent « Ah bah tiens, ils parlent comme des vieux, donc ils parlent bien ». Non, c'est pas qu'ils parlent comme des vieux, c'est que les vieux d'aujourd'hui, ce sont eux. Je pense que c'est un peu la même chose par rapport à ce rapport à la maison, à la cellule familiale, la petite mallette, etc. Pour eux, aujourd'hui, un élève qui vient avec une mallette en cours, évidemment qu'ils vont se dire « Tiens, c'est un bourgeois
». Et il porte une cravate, hein, le petit Nicolas.
Et finalement... dans les années 60, est-ce que c'est très bourge d'avoir une cravate et une mallette ?
Anne Gossini.
Oui, en fait, c'est impossible de comparer les codes vestimentaires en 2020 des codes vestimentaires en 1959. Le petit Nicolas est pas plus bourgeois que... Enfin, le grand bourgeois du petit Nicolas, il s'appelle Geoffroy et il a une piscine en forme de rognon, un chauffeur qui s'appelle Albert et quand la voiture est en panne, il vient sur les épaules d'Albert. Là, mon père se moque d'un certain milieu social. Mais dire que le petit Nicolas est bourgeois, moi je suis assez horrifiée parce que c'est ni dans l'intention à mon avis des auteurs, ça vient juste d'une espèce de confusion de codes vestimentaires. Aujourd'hui les mômes ils ont des vêtements de marque, des portables, ils sont hyper connectés. Le petit Nicolas il est hyper connecté avec son porte-plume, sa cravate et son gilet. Enfin je veux dire c'est...
Cette impression est sans doute aussi une affaire de prénom, on va en parler dans un instant.
Dorothée Barba sur France Inter.
Barbatrix !
Écoutez-moi cet accent. Brooklyn Bridge to Chorus. C'était les Strokes sur France Inter.
Je me souviens que c'était un personnage qui avait à peu près mon âge, donc c'était un peu facile de s'identifier. Puis c'était un peu aussi le cliché un peu du petit garçon qui nous racontait sa vie. Enfin voilà, on voyait sa vie, ses premières rencontres, sa vie sociale un peu. Bon, les premières bêtises, la vie à l'école, quoi, et tout ça, voilà.
Ça fait une caricature un peu grossière des enfants qu'on peut retrouver au primaire, par exemple. Il y a des profils qu'on peut retrouver, comme les enfants un peu turbulents, ceux qui sont toujours un petit peu les chouchous des profs, ou encore les enfants un peu plus fortunés.
Le petit Nicolas de Sempé et Goscinny est notre héros de la semaine dans Barbatruc avec Anne Goscinny, la fille de René Goscinny, romancière, et avec Alexis Pochke qui a publié l'an dernier un récit de sa vie de prof de français. Ça s'appelle « Rappeler les enfants ». Le petit Nicolas en chiffres, c'est assez vertigineux, Anne Goscinny. Hein. 15 millions d'exemplaires vendus, traduits dans 50 langues, hein, c'est ça ? Même
absolument.
En latin, ça donne « Poulous Nicolelous ». Quelle est votre traduction préférée ?
Oh, incontestablement, la traduction en yiddish, puisque on a décidé de traduire le petit Nicolas dans les 75 langues de France. Aujourd'hui, on doit être à peu près à 30. Et le petit Nicolas en yiddish, moi, me tient particulièrement à cœur, puisque c'était la langue maternelle de la mère de mon père. Et si on considère que mon père, avec le petit Nicolas, raconte son enfance, on peut imaginer que la maman du petit Nicolas pourrait parler yiddish. Et finalement, je trouve qu'avec cette traduction en yiddish, j'ai bouclé une boucle. Et elle me tient à cœur.
Une traduction à paraître prochainement, fin septembre, le petit Cola en normand.
Absolument, le 24 septembre.
Les langues de France aussi sont fièrement représentées dans ces très nombreuses traductions.
Et moi, j'y tiens beaucoup parce que ça montre à quel point notre pays est heureusement riche et diversifié.
Alors, c'est un marronnier, autrement dit un sujet dont les journalistes raffolent. La liste des prénoms les plus populaires. On y apprend que Léna, Léa et Mila sont plébiscités pour les filles. Léo, Hugo et Enzo, très populaires chez les petits garçons. Toute la question pour les jeunes parents, bien sûr, c'est de savoir s'il vaut mieux être original ou à la mode, hein, au moment de donner un prénom à son bébé. Mais à ma grande surprise, Clotaire et Agnan ne sont pas dans l'air du temps. Ça méritait l'éclairage d'un spécialiste. Bonjour Baptiste Coulmont.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous êtes professeur de sociologie à l'École normale supérieure Paris-Saclay. Vous êtes spécialiste des prénoms. J'imagine que le petit Nicolas est pour vous une lecture délicieuse.
Oui, plutôt parce que les prénoms sont bizarres et très rares. Hein. Clotaire, Geoffroy, Eudes ou Agnan sont des prénoms qui ont été très peu donnés au XXe siècle.
Alors, est-ce révélateur, à votre avis, d'un milieu socio-culturel ? On se demandait tout à l'heure si le petit Nicolas était bourge.
En 1959, un petit garçon qui naît et qui s'appelle Nicolas, oui, c'est un enfant de cadre. Mmh. C'est un prénom qui, à ce moment-là, est en très forte croissance, mais qui reste très rare. Hein. On passe de 200 Nicolas en 1947, c'est le minimum, mmh, à 600 Nicolas en 1950. Donc, quand Goscinny choisit ce prénom-là, il choisit un prénom qui est en forte croissance. Il ne peut pas le savoir vraiment très très bien, mais il sent que ce prénom-là est à la mode et ça culminera avec 22 000 petits Nicolas en 1980 pour diminuer ensuite.
Alors là, évidemment, il y a eu un effet aussi du petit Nicolas sur les prénoms donnés aux enfants. C'est le serpent qui se mord la queue.
Non. C'était un prénom en forte croissance et la croissance a continué. S'il n'avait pas pris Nicolas, il aurait pu prendre Vincent, Emmanuel ou Benoît. Et d'ailleurs, en 1960, un autre auteur de bande dessinée crée Benoît Brisefer, qui est un prénom qui a à peu près la même structure que Nicolas. Donc ça, c'est assez classique en fait. Hein. Les créateurs culturels vont prendre un prénom à la mode. Il n'a pas appelé Nicolas, Roger ou Albert.
Quel est votre prénom préféré dans la classe, dans la bande de copains du petit Nicolas, Baptiste Coulmont ?
C'est probablement Geoffroy, parce que là, ça colle très très bien avec l'origine sociale des Geoffroy.
C'est-à-dire ?
C'est plutôt un prénom noble, hein. C'est un prénom surreprésenté parmi les personnes qui ont un nom à particules. Hein. La sœur de Geoffroy, ce sera Isore ou Kitry. Ça marche assez bien avec la position qu'occupe Geoffroy dans le petit Nicolas.
Mon préféré à moi, c'est Clotaire. Magnifique ce prénom, médiéval un peu, non, Clotaire ?
Même pré-médiéval, c'est un prénom mérovingien, qui sont presque tous disparus aujourd'hui. On n'appelle pas sa fille Gondioc, qui
c'est
est
dommage,
un prénom
d'ailleurs.
Mérovingien.
Gondioc.
Le seul prénom qui est resté, c'est Mathilde, qui est un des seuls prénoms mérovingiens qui a survécu.
Mathilde, effectivement, plus fréquent que Gondioc. C'est une bible pour le sociologue des prénoms que vous êtes, le petit Nicolas.
Oui, ce dont je rêve quand j'ouvre un livre ou une bande dessinée ou autre chose, c'est qu'il y a un ensemble de prénoms qui montrent les positions sociales différenciées et qu'on puisse avoir une idée de ce qu'il y avait dans la tête du créateur à ce moment-là.
Merci beaucoup, Baptiste Coulmont. Sociologie des prénoms, c'est à lire aux éditions de La Découverte. Bonne journée, à bientôt sur France Inter.
Au revoir.
France Inter.
Barbatruc.
Il y a dans votre roman, Alexis Potchke, un personnage qui fait penser à l'univers du petit Nicolas. Il s'appelle Geoffrey. Alors, c'est pas Geoffroy, mais c'est tout comme. Hein. Geoffrey, écrivez-vous, est pâle comme un linge et tremble lorsqu'il y a du vent. Geoffrey collectionne les punitions. Il est heureux, je crois, quand d'aventure il en reçoit une qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il consigne les heures qu'il passe en retenue. Les punitions, souvent, sont comme des médailles que l'on accroche à sa veste. On gagne ainsi ses galons de petit garçon. On se croirait dans le petit Nicolas, Alexis Potchke. Les punitions sont un volet incontournable de cette fiction de Sempé et Goscinny.
Oui, et d'ailleurs, c'est les passages qui me heurtent le plus en tant qu'enseignant, lorsque je vois à quel point les adultes, et surtout le Bouillon, Monsieur Mouchabière, peuvent être absolument pas bienveillants. C'est une personnification de l'injustice des adultes et de l'autorité brutale. Lorsqu'ils voient un enfant pleurer, ils en ont rien à faire, excepté Agnan, bien sûr, qui, lui, lorsqu'il pleure, est consolé. Je pense que c'est moins une critique des adultes de manière générale, de la part de Goscinny, qu'une critique de ce que peut donner l'autorité lorsqu'elle est mal exercée, mal employée.
Parce que les enfants, en tout cas le petit Nicolas qui nous raconte ces histoires, se moquent beaucoup du Bouillon, le surveillant, et de la maîtresse quand l'autorité est défaillante.
Et ils ont raison. Ils ont raison. Heureusement qu'ils le font, parce que aujourd'hui des personnages comme ça, on ne pourrait plus en trouver dans les écoles primaires. Et si on en trouve, apprenons-leur à se comporter différemment. Je pense qu'un personnage comme Le Bouillon, aujourd'hui, ne tiendrait plus et c'est heureux.
Pourquoi collectionner les punitions, Alexis Potchki ? Est-ce que c'est pour attirer l'attention ?
Bien sûr. Mmh. Oui, oui. Lorsqu'on rentre au collège ou même auparavant, lorsqu'on est à l'école primaire, on essaye toujours d'attirer l'attention. Et puis on va le faire avec les armes dont on dispose. Certains vont le faire en essayant d'être le premier de la classe. Certains vont le faire en essayant d'être le plus populaire, etc. Et ceux qui sont mal à l'aise, ceux qui n'y arrivent pas, ceux qui sont peut-être peu travailleurs ou qui ont peu de possibilités de travailler, vont essayer de le faire autrement et vont vouloir être l'élève qui est puni. Ils vont essayer de se définir d'une certaine manière. Je ne peux pas être défini comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Que me reste-t-il ? Tiens, être puni, c'est facile. Une punition, c'est facile à obtenir.
J'étais pas très sage, quoi, mais voilà, ça évolue. Je me souviens qu'il fallait les faire signer par ma mère une fois qu'on les avait faites et que c'était moi qui imitais la signature.
Ah ben moi c'est pareil, j'en ai récolté. Hein. Blatayer, mugir, ma prof de français, ça allait à la pelle. Donc des verbes, des dix verbes du troisième groupe à conjuguer à tous les temps. Après on rentre dans le rang comme on dit.
Conjuguer, blatayer à tous les temps, voilà cet adolescent d'aujourd'hui qui nous raconte une punition qu'il avait eue au primaire. Apparemment, Anne Goscinny, on est en plein dedans là. Hein.
Oui, puis alors moi j'ai lu avec beaucoup de passion le livre d'Alexis, j'ai noté plein de choses, et notamment à propos de la signature, il y a une gamine qui s'appelle Dina, dont on vient de comprendre qu'elle imite depuis le début de l'année la signature de sa mère. Et puis, à un moment donné, à la fin, Dina relève la tête, elle regarde sa mère, moi, sa mère, puis pleine de morgue, lâche juste parce que j'imite pas assez bien ta signature. À la question comment on en est arrivé là, parce que j'imite pas assez bien ta signature.
Je crois que le petit Nicolas fait un truc pareil avec
Clarisse. Oui, bien sûr.
Papa, il faut t'appliquer plus parce que mes contrôles sont pas bons.
En lisant ce passionnant livre, j'ai été frappée de voir qu'il était truffé de petit Nicolas. Mmh. Par exemple, on parlait de Geoffrey tout à l'heure. Il y a un Geoffrey à qui une gamine dit franchement Geoffrey, franchement t'es con. Et Alexis semble dire à la jeune fille qui a dit ça à Geoffrey, Mélanie, il y avait des manières plus gentilles de dire ça. Et elle répond, franchement Geoffrey, franchement, t'es un peu con. Et là, je crois que ça aurait pu être écrit par mon père, au 21e siècle.
Et ça, c'est un magnifique compliment. Rappelez les enfants d'Alexis Potchki, c'est à lire au Seuil. Un nouvel extrait, tenez, du petit Nicolas.
Papa est entré dans la maison avec un gros sourire. Ma petite famille va être contente, il a dit. J'ai une bonne surprise pour elle. Regardez par la fenêtre et dites-moi ce que vous voyez. Je vois un agent de police en train de mettre une contravention sur une auto verte, a dit maman. Alors papa n'a plus souri et il est sorti en courant. Maman et moi, nous l'avons suivi. Papa était sur le trottoir en train de parler avec un agent de police qui écrivait des tas de choses sur un petit papier bleu, avec le même air que Le Bouillon, notre surveillant, quand il prend nos noms pour nous punir. Mais enfin, monsieur l'agent, disait papa, je ne comprends pas. Cette voiture est stationnée devant une sortie de garage, a répondu l'agent. Mais c'est mon garage et c'est ma voiture, a crié papa. Comment ta voiture ? A demandé maman. Je t'expliquerai, a dit papa, tu vois bien que je suis occupé. Que ce soit votre garage ou pas, ça ne fait rien à l'affaire, a dit l'agent de police. Le code de la route est formel à ce sujet. Vous connaissez le code, je suppose. J'aimerais tout de même que tu me dises ce que c'est que cette voiture, a crié maman. Je le connais très bien, le code. Je conduis depuis des années et je vous préviens que j'ai des amis très haut placés, a dit papa. Eh bien, tant mieux, a dit l'agent de police. Peut-être qu'ils vous prêteront de l'argent pour payer cette contravention. En attendant, vous leur donnerez bien le bonjour. L'agent a rigolé et il est parti. Papa, il est resté tout rouge avec son petit papier bleu. Alors ? A demandé maman qui avait l'air nerveuse. Alors ? M'a dit papa. J'ai échangé notre vieille voiture contre celle-ci. J'ai voulu vous faire une bonne surprise à toi et à Nicolas, mais ça commence mal. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme ? A demandé M. Blédur, qui était venu près de nous sans qu'on le voie. M. Blédur, c'est un voisin qui se fâche tout le temps avec papa. Papa s'est retourné d'un coup. Ah ! Ça m'aurait étonné que tu ne viennes pas fouiner, toi. C'est quoi ça ? A demandé M. Blédur en montrant la voiture du doigt. C'est ma nouvelle voiture, a répondu papa. Je peux ? Monsieur Blédur a tourné autour de l'auto et il a mis sa lèvre d'en bas, très en avant. Drôle d'idée d'acheter ça, a dit Monsieur Blédur. Tout le monde sait que c'est un veau et que ça ne tient pas la route. Et ils ont commencé à se pousser l'un l'autre comme ils font souvent pour rigoler. Pendant qu'ils étaient occupés à faire les guignols, moi je suis monté dans l'auto pour voir comment c'était dedans. C'était chouette, c'était tout neuf et ça sentait drôlement bon. Je me suis mis au volant et j'ai fait vroum, vroum, vroum. Je vais demander à papa de m'apprendre à conduire. Ce qui est embêtant, c'est que les pédales sont trop basses pour mes pieds. Nicolas ! A crié papa. Moi ça m'a fait tellement peur que j'ai klaxonné avec le genou. Et puis on a vu arriver l'agent de police. Je parie que c'est vous qui avez klaxonné, il a dit. Et il a sorti son petit carnet. Non monsieur, j'ai dit. C'est moi qui ai klaxonné. Nicolas, tais-toi, a crié papa. Et maman m'a pris par la main et m'a emmené dans la maison. En partant, j'ai entendu l'agent de police qui disait à papa « Et vous êtes toujours sur la sortie de garage. Bravo ! Comme ça, vous aurez des tas de choses à leur raconter, à vos amis haut placés. »
Lecture signée Benoît Poulvorde chez Gallimard Jeunesse dans la collection Écoutez lire, Anne Goscinny, le regard de Nicolas sur les adultes est d'une acuité redoutable. Il voit le monde des grands dans toute son absurdité finalement.
Oui, absolument. Mais il le voit, il le commente, mais il ne le juge pas. Il est étonné, il est attendri souvent, puisque c'est un monde, moi, qui me fascine. Et si vous l'analysez un petit peu, vous verrez que souvent, les adultes sont des enfants et les enfants sont des adultes.
Il est attendri par les adultes, oui, dites-vous. En général, c'est l'inverse. Hein.
Les enfants ont souvent, dans ces histoires-là, la maturité que les adultes n'ont pas. C'est un ressort comique, mais qui fonctionne très bien.
Alexis Potchke, dans la manière de raconter, peut-être que le génie du petit Nicolas réside là, hein, dans cette façon de faire le récit en ayant l'air de tout découvrir. Il y a une naïveté sans doute surjouée qui est absolument fascinante.
Oui, tout à fait. Je trouve que ce qui est vraiment extrêmement réussi dans le petit Nicolas, et une des raisons pour lesquelles j'aime autant le lire, c'est vraiment la manière avec laquelle Goscinny arrive à se situer toujours avec l'acuité qui est celle d'un adulte et la naïveté qui est celle d'un enfant. Et on entend le petit Nicolas nous parler de choses en donnant l'impression de ne pas les comprendre. Et en même temps, on devine très bien ce qui est en train de se passer. Et le décalage entre les deux, moi, me fait beaucoup rire. Et on oublie souvent aussi de préciser à quel point Goscinny écrit extrêmement bien.
Il a inventé une langue sur ces histoires-là, René Goscinny.
Alors c'est très très étonnant ce que vous dites, puisque il a inventé une langue qui est complètement artificielle. Aucun enfant ne parle comme ça, et pourtant quand on lit le petit Nicolas, on a le sentiment que tous les enfants parlent comme ça.
Cette manière notamment d'employer le discours indirect, que personne ne fait.
Absolument, et moi je suis aujourd'hui l'éditrice du petit Nicolas, et je reçois relativement souvent des manuscrits de gens qui me disent « voilà, je vous propose d'être le futur scénariste des histoires du petit Nicolas ».
Toute humilité.
Voilà, et de faire du Goscinny à la place de Goscinny. Ben ça me fait marrer parce que ça valorise considérablement mon père, parce que il y a une espèce de génie et de magie qui fait qu'il est copiable mais pas imitable. Je sais pas comment bouger dans ce paradoxe là. On peut faire comme, mais on peut pas faire du Goscinny. Voilà.
Alors, on parlait à l'instant des prénoms. Je ne sais pas si c'est son vrai prénom ni son vrai patronyme, mais voici Bonnie Banane sur Inter.
Papa. truc le dimanche soir sur France Inter.
Bah moi j'aime bien le film Le Petit Nicolas.
Dans Le Petit Nicolas, ils font que des bêtises les autres.
Bah moi j'allais pas dans un square avec mes potes. J'avais envie d'avoir genre une bande de potes, se rejoindre dans un square, faire quelques bêtises et tout. Genre ça me donne envie d'avoir leur petite vie, mais après c'est pas la vraie vie donc en soi. Ou alors comme il y avait un passage, je crois, ils avaient une potion magique et ils ont soulevé une camionnette et tout, et ça me faisait penser à Astérix et Obélix avec la potion et tout ça.
Le petit Nicolas, il dit que l'autre, c'est le chouchou de la maîtresse.
Non, en vrai, c'était cool.
Moi, j'aime bien la pluie quand elle est très très forte, parce qu'alors je ne vais pas à l'école et je reste à la maison et je joue au train électrique. Mais aujourd'hui, il ne pleuvait pas assez et j'ai dû aller en classe. Mais vous savez, avec la pluie, on rigole quand même. On s'amuse à lever la tête et à ouvrir la bouche pour avaler des gouttes d'eau. On marche dans les flaques et on y donne des grands coups de pied pour éclabousser les copains. On s'amuse à passer sous les gouttières et ça fait froid comme tout quand l'eau vous rentre dans le col de la chemise. Parce que, bien sûr, ça ne vaut pas de passer sous les gouttières avec l'imperméable boutonné jusqu'au cou. Ce qui est embêtant, c'est que pour la récré, on ne nous laisse pas descendre dans la cour pour qu'on se mouille pas. En classe, la lumière était allumée et ça faisait drôle. Et une chose que j'aime bien, c'est de regarder sur les fenêtres les gouttes d'eau qui font la course pour arriver jusqu'en bas. On dirait des rivières. Et puis la cloche a sonné et la maîtresse nous a dit « Bon, c'est la récréation, vous pouvez parler entre vous, mais soyez sages. » Alors on a tous commencé à parler à la fois et ça faisait un drôle de bruit. Fallait crier fort pour se faire écouter. Et la maîtresse a fait un soupir, elle s'est levée, elle est sortie dans le couloir en laissant la porte ouverte et elle s'est mise à parler avec les autres maîtresses qui ne sont pas aussi chouettes que la nôtre. C'est pour ça qu'on essaie de ne pas trop la faire enrager. « Allez, Adieude, on joue la balle au chasseur ?»« T'es pas un peu fou, » dit Rufus. « Ça va faire des histoires avec la maîtresse, et puis c'est sûr, on va casser une vitre. »« Bah, dit Joachim, on n'a qu'à ouvrir les fenêtres. » Ça, c'était une drôlement bonne idée. Et nous sommes tous allés ouvrir les fenêtres. Sauf Agnan, qui repassait sa leçon d'histoire en la lisant tout haut, les mains sur les oreilles. Il est fou, Agnan. Hein. Et puis, on a ouvert la fenêtre, c'était chouette parce que le vent soufflait vers la classe, et on s'est amusé à recevoir l'eau sur la figure. Et puis, on a entendu un grand cri. C'était la maîtresse qui venait d'entrer. « Mais vous êtes fou !» elle a crié la maîtresse. « Voulez-vous fermer ces fenêtres tout de suite ?»« C'est à cause de la balle au chasseur, mademoiselle !» a crié Joachim. Alors, la maîtresse nous a dit qu'il n'était pas question que nous jouions à la balle. Elle nous a fait fermer les fenêtres et elle nous a dit de nous asseoir tous.
Le petit Nicolas de Sempé et Goscinny, lu avec brio par Édouard Baird.
Je crois que tout ce que fait Édouard Baird est fait avec brio.
C'est pas faux. D'ailleurs, c'est mon petit collègue sur France Inter, j'en suis pas peu fière. C'est toujours un peu désastreux de tenter d'expliquer l'humour à Goscinny ou tenter de comprendre pourquoi c'est drôle, mais un élément me semble important quand même. Nicolas ne voit jamais où est le mal. Il est d'une mauvaise foi indécrottable.
Non, il n'est pas de mauvaise foi. C'est un enfant, il est naïf.
Ouais.
Et il n'a pas encore accès au mal. Il a accès à tout un tas de choses, aux bêtises, aux copains, au rire. Il est un peu insolent, mais pas vraiment beaucoup. Et je pense que mon père, avec le petit Nicolas, a surtout voulu s'amuser.
Mmh.
Et alors, il y a quelque chose qu'on sait peu et qui est plutôt très intime. Quand il a rencontré ma mère, en 1964, elle n'avait jamais entendu parler d'Astérix. C'était peut-être la seule. En revanche, pour la séduire, il lui a donné un des volumes du petit Nicolas en lui disant, bah, écoutez, lisez ça. Ils avaient 17 ans d'écart. Ma mère était une espèce de bombe atomique. Mon père était qui il était. Il avait un charme fou, mais c'était pas Gary Cooper. Et il lui a donné ce petit Nicolas. Ma mère a lu le petit Nicolas et elle a dit, ah oui, ce type est génial. Et elle l'a épousé et me voilà. Donc merci le petit Nicolas.
Donc merci, cette information me bouleverse.
Mais
c'est
oui.
Tout ça, c'est grâce à vous. On a appris hors antenne que vous aviez failli vous appeler autrement, Anne Goscinny.
Absolument, je suis née en mai 68 et mon père est allé me déclarer à la mairie de Boulogne-Billancourt sous le nom de Anne Barricade.
Donc un prénom et composé, décidément voilà. Il avait le génie des
et
prénoms.
Et voilà 52 ans que je cherche l'employé de mairie qui lui a refusé ce plaisir. Imaginez-moi sur mon passeport ouais. Jusqu'à la fin de ma vie, Anne Barricade. Compliqué quand même, hein.
Anne Barricade, Goscinny voilà. Est mon voilà. Invité sur France Inter, ainsi qu'Alexis Pochke, qui est prof de français. On a parfois l'impression qu'il radote, hein, le petit Nicolas. On le saura à la longue que Agnan est le chouchou de la maîtresse et que Clotaire est le dernier.
Et que Alceste mange tout le temps. Et qu'il y a un terrain vague.
C'est aussi pour ça que c'est drôle.
Oui, oui. Mais c'est vrai que quand on est confronté à des enfants, on se rend compte que...
Ils répètent beaucoup les choses.
Ouais, ils radotent. Moi aussi, je radote beaucoup et ils me le font remarquer, ils se moquent de moi. Non, les enfants, en fait, sont en circuit clos, tout comme le petit Nicolas, se répètent beaucoup. Et je pense que ça aide aussi à s'identifier avec lui et ça aide à rentrer plus facilement dans les histoires. Vraiment, c'est un cocon. Quand on ouvre l'histoire, il y a Clotaire qui est le dernier, Agnan le premier, Alceste qui mange, le terrain vague et tout est chouette.
Anne Gossigny, est-ce que vous connaissez le syndrome de la Schtroumpfette ?
Ah non, voilà bien un syndrome qui m'a échappé.
Très intéressant quand on se penche sur la fiction. C'est l'idée, souvent inconsciente chez les auteurs, qu'une seule fille, c'est bien suffisant. Comme chez les Schtroumpfs, il y a une seule fille, c'est la Schtroumpfette. Dès qu'il y a une fille, on peut considérer que c'est bon, la mixité est assurée. Marie-Edwige est la seule fille de cette histoire. Où sont les filles chez le petit Nicolas ?
Il y a Louisette aussi, qui est une autre fille. Et Louisette, dont Nicolas dit qu'elle a un shoot terrible.
Oui, elle joue au foot, voilà, Louisette. Au foot. Ça, c'est vrai. Mais ça manque de filles, non, sérieusement.
Alors, ça manque de filles. On est en 1959. L'école publique primaire n'est pas mixte. Elle l'est après, mais ça aurait été aberrant de truffer cette classe de garçons de filles. Enfin, on n'était pas... Voilà. Aujourd'hui, on dit ça manque de filles. Et puis, les filles, si ça manque de filles, on va les chercher à l'extérieur. En l'occurrence, qu'a fait Nicolas, sa voisine, Marie-Edwige, il y a Louisette. Il a des cousines aussi. Et puis, il est à un âge... Mon fils avait cet âge il y a une dizaine d'années, où maman, après tout, suffit à combler tout un tas de choses.
Marie-Edwige,
moi, je suis très nostalgique.
C'est la
sœur
de Anne Barricade, d'ailleurs.
Absolument, moi, je suis très nostalgique de cette période où je comblais tout pour mon petit garçon.
Vos élèves, à vous, Alexis Potchke, vous disent-ils, quand ils lisent Le Petit Nicolas, que ça manque de filles ?
Non.
C'est important, à votre avis, que les petites filles d'aujourd'hui aient des personnages auxquels s'identifier ou pas
oui.
du tout ?
Ah oui, c'est très important. Je pense qu'il le faut. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait que le syndrome de la Schtroumpfette soit un vrai problème dans la fiction contemporaine. Ce qui agace plus mes élèves en lisant Le Petit Nicolas, c'est pas l'absence de filles en soi, parce qu'ils ont conscience confusément du fait que ce soit quelque chose d'assez daté, c'est les années 60, et effectivement, c'est pas mixte. Par contre, le fait que ce soit très genré. Alors, il y a notamment cette histoire dans laquelle Nicolas est invité par Marie-Edwige, et Marie-Edwige a invité toutes ses copines. Et quand Nicolas arrive, les filles ont toutes leurs poupées. Et lui, il trouve que c'est complètement ridicule, les cuisines, les cadeaux qu'elle a, etc. Il veut juste jouer au foot. C'est plutôt ça, en fait, qui les tracasse. Dans les années 60, c'était poupée pour les filles, ballon pour les garçons. Aujourd'hui, ça s'est complètement remis en question et les élèves trouvent ça aberrant que ça ait pu un jour être comme ça.
Pardon, mais je crois que vous n'avez pas d'enfants.
Non.
Pas encore. Mais moi, j'ai deux enfants et je peux vous dire que mon fils Simon jouait avec des épées. Or, j'ai jamais eu une épée à la maison. Et Salomé, ma fille, était plutôt branchée poupée. Il n'y avait pas de poupée non plus.
Je ne crois pas qu'on va se lancer aujourd'hui dans ce genre de débat. On peut constater que les jouets sont genrés. On peut aussi s'en désoler. Anne Gossigny, voilà un personnage de fille important et qui remporte un grand succès en librairie. C'est Lucrèce, le monde de Lucrèce, la série de livres que vous co-signez avec Catel, la dessinatrice. Est-ce que c'est la sœur de Nicolas, ou sa cousine, ou sa nièce ?
Alors, les journalistes ont beaucoup dit que c'était sa petite sœur ou sa grande sœur. Oui, moi, je me suis beaucoup inspirée du petit Nicolas pour écrire ces histoires-là, puisque, pareil, c'est un monde idéal. Alors, c'est une famille recomposée, mais tout se passe bien, il n'y a pas de drame. C'est vrai que...
Comme dans les bagarres du petit Nicolas, ça finit jamais mal.
Voilà, c'est vrai que Lucrèce et Nicolas ont sans doute le même ADN, mais moi j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que j'ai donné à mon personnage principal un prénom tout à fait atypique et à ses copains des prénoms banals.
Oui, bien joué.
Donc mon personnage s'appelle Lucrèce et ses copains s'appellent Rose, Elliot, Augustin, Mathis, Simon, voilà.
Elle fait tout à l'envers, Anne Gossigny.
Oui.
My Boy Lollipop, sorti presque en même temps que le petit Nicolas en 1964. C'était Milly sur France Inter.
Barbatruc, Dorothée Barba.
Et nous parlons du petit Nicolas avec Anne Goscinny et Alexis Potschke. Un mot n'a pas encore été prononcé sur ce plateau, Alexis Potschke, c'est le mot chouchou. Il est compliqué, alors je vous le livre comme ça, vous en faites ce que vous voulez.
Première chose, comment Agnan peut-il être le chouchou?
Bah parce que c'est le premier de la classe.
Mon Dieu, si c'était si simple. Non, dans la mesure du possible, évidemment, on ne doit pas avoir de chouchou.
Vous n'en avez pas d'ailleurs, possible. Vous, en tant que prof de français.
Non, j'ai 120 chouchous, c'est tous mes élèves. Non.
C'est compliqué pour un enseignant de lutter contre ce sentiment évidemment naturel d'avoir des préférés dans la classe?
Bien sûr. C'est vrai que lorsqu'on se retrouve face à des élèves et que certains, alors là je parle en tant que professeur de français, certains vont vouloir parler de livres qu'on a nous-mêmes lus ou aimés, on va peut-être plus facilement aller vers eux. Mais c'est une erreur. Il faut être disponible pour tous ses élèves sans distinction.
Lire ou relire donc le petit Nicolas aux éditions IMAV, mais aussi les nouveautés de la littérature jeunesse. Et pour nous aider à choisir, pour nous guider en librairie, il y a Denis Chessou, l'actualité du livre pour enfants.
Là, tu lis, mon petit loup.
Bonjour Dorothée. Le jardinier qui cultivait des livres est signé Nadine Poirier et Claude Cadubois aux éditions 2, c'est à partir de 5-7 ans. Un jardinier passionné de livres aimait raconter des histoires aux gens de son village.
Il cognait même de porte en porte à toute heure pour lire ses extraits préférés.
Alors c'est sympathique, mais ça peut aussi user, hein, si bien qu'il se fit chasser du village. Aussi, dans sa nouvelle maison éloignée, il enfouissait des mots dans la terre de son jardin et faisait pousser des romans, des albums, des BD.
Et le soir, il couvrait sa culture d'un grand voile pour protéger les pages de la pluie et du froid.
Et puis, une fois mûr, il cueillait ou déterrait un livre et hop, il s'embarquait dans une belle aventure. Un matin, il découvrit une petite fille sous un de ses voiles jardiniers, vêtements souillés, pieds nus et souriante.
Où sont tes parents ? Ben, je n'ai pas de parents. Les gens du village m'accueillent à tour de rôle, mais jamais longtemps. Ils trouvent que je dérange.
Et notre jardinier n'avait nulle envie qu'on vienne troubler sa paix. Et désinvolte, elle dit...
Tu sais, je lis tout le temps.
Alors, notre petite fille demanda à notre jardinier s'il avait un manuel pour faire pousser les enfants.
Eh ben, dis donc, voilà une drôle d'idée.
Ben, vous faites bien pousser des livres.
Et la petite fille se plante les deux pieds dans la terre sans bouger. Alors évidemment, après quelques heures, elle a soif, elle a faim, elle s'ennuie, et à chaque fois, notre ours de jardinier est là, bien sûr, il s'occupe d'elle. Elle a froid, elle dort debout, il l'entoure, il la soutient, et puis elle s'endort contre lui. Alors lui, il est fatigué, mais il est tellement heureux. Et au matin, aucun autre enfant avait poussé, mais elle lui dit
« Maintenant, vous savez prendre soin des enfants ».
Donc un album, je vous le disais, qui parle du goût et de la diversité de la lecture, mais aussi qui fait réfléchir à comment on prend soin des autres et aussi à la définition du mot « papa ». Le jardinier qui cultivait des livres de Nadine Poirier et Claude Cadubois aux éditions 2, c'est pour les 5-7 ans. Les animaux de Palm Spring est écrit et illustré par Madeleine Payenne et Rhys Pouy aux éditions de La Grume à partir de 6 ans.
Le jour se lève sur la petite ville de Palm Springs, perdue au cœur du désert américain.
Allongé sur l'herbe, entre une boîte aux lettres et deux cactus, un vieux coyote s'étire songeur.
Encore une nuit à rêver de sa vie d'avant. Il avait beau avoir le ventre vide, il était alors libre de jouer de la guitare en hurlant à la lune.
Et ce coyote n'était autre que le leader du groupe de rock, The Lonely Cactus.
Il menait alors, avec les autres animaux membres du groupe, une vie d'artiste qui n'était pas de tout repos.
Mais les chemins de chacun ont fini par se séparer, avec la promesse d'une vie meilleure.
Voilà le livreur de journaux qui passe à toute vitesse sur sa bicyclette. Incroyable ! En couverture du soleil californien, Elvis annonce son retour à Palm Springs.
Le cerveau du coyote entre alors en ébullition.
Si j'arrive à m'introduire chez lui pour dérober ses nouvelles chansons, je pourrais lui voler la vedette et à mon tour briller sur scène.
Mais pour y parvenir, il faut retrouver les anciens membres du groupe. Alors, direction Las Vegas, la ville des strass et des paillettes, et y retrouve ses amis, le raton laveur,
le chat et le chien de prairie,
et les convainc de rendre une petite visite à Elvis Presley à la nuit tombée.
Dans la nuit noire, une forme étrange aux innombrables yeux brillants se tient immobile sur le perron de la villa.
Ah, ça n'est autre que nos braves héros, empilés les uns sur les autres pour former une étrange créature. Et là, ça n'est pas aussi effrayant qu'il l'aurait souhaité.
Tu parles d'un monstre, et pourquoi je devrais fuir de chez moi ?
Elvis Presley, plus amusé que terrifié, finit par faire entrer les Lascars chez lui pour lui faire un peu de compagnie. Bon, faut dire que le chanteur est assez déprimé en ce moment. Hein.
Cette bande de doudingues me donne des idées et elle pourrait bien donner un souffle nouveau à ma carrière.
Alors avec cette histoire de larcin et d'empilement impromptu d'animaux, Les Animaux de Palm Spring, hein, donc n'est pas sans rappeler un conte des frères Grimm, hein, celui des musiciens de Brême, et cette touche de tradition vient s'inscrire dans un récit lui-même un brin nostalgique des années 50, dont Presley, en pyjama, est assurément la vedette.
Son propos est en revanche tout à fait moderne, Denis.
Oui, tout à fait. La précarité, la gentrification ou même l'effet de mode sont autant de thèmes à saisir en filigrane de cette histoire alors loufoque mais très originale, menée par des héros irrévérencieux. Les Animaux de Palm Spring, Madeleine Payenne et Iris Pouille aux éditions de La Grume, c'est à partir de 6 ans. Merci à Xavier Pestugia pour sa réalisation, à Lucie Cosmala pour sa coécriture, Eric Oswald, Denis Chessou. Nous vous souhaitons de belles lectures.
Merci Denis Chessou. Retrouvez toutes les références des livres évoqués à l'instant sur le site de France Inter à la rubrique L'as-tu lu, mon petit loup ? Barbatruc est une émission réalisée par Christophe Imbert, préparée par Anne-Sophie Dazard, Raphaël Rousseau et Thomanette. Caroline Pommès a tendu son micro à Bordeaux à des adolescents et à des enfants. Et Jean-Baptiste Audibert a choisi la musique. Je suis avec Anne Goscinny et Alexis Potchke et j'ai une dernière question à vous poser à tous les deux. Quelle est l'odeur de votre enfance, Anne Goscinny ?
En voilà une question. Alors moi, ce qui me vient à l'esprit spontanément, quasiment sans réfléchir, c'est sans doute le parfum de ma mère, et qui était, je ne sais même pas s'il existe encore, qui s'appelait Y de Saint-Laurent, qui était un parfum que je trouvais à la fois sucré et à la fois remarquable, et qu'elle laissait dans son sillage et qui m'indiquait si elle était là ou si elle n'était pas là. Et parfois même, aujourd'hui elle est morte depuis 26 ans, et parfois même il me semble même, en marchant dans la rue, quand je pense à elle, le sentir tout près de moi.
C'est une odeur qui convoque un souvenir.
Ah oui, absolument.
Mmh. Alexis Potchke, même question. Quelle est l'odeur de votre enfance ?
L'odeur de mon enfance, c'est une odeur que j'ai longtemps appelée en esprit l'odeur du garage, qui en fait était un mélange, je l'ai compris plus tard, d'une odeur de sueur et d'une odeur d'essence. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, mais pour moi c'était l'odeur du monde des adultes. Parce que quand j'étais dans les garages, j'étais entouré de choses qui me semblaient... complètement mystérieuse, un moteur de voiture, des objets, des bidons, des choses qui me semblaient presque inutiles, en tout cas à moi en tant qu'enfant. Et en y repensant, je me rends compte qu'en fait, l'odeur de mon enfance, c'était l'odeur du monde des adultes, comme si en fait être enfant, c'est simplement ne pas être adulte. Et être adulte, c'est ne plus être enfant.
Définition par l'absurde, magnifique. Un parfum d'Yves Saint-Laurent et l'odeur du garage.
Voilà,
ça nous
donc
fait un joli cocktail.
Les filles parlent de parfum et les garçons parlent de voiture. On y est.
Voilà, c'est désastreux. Merci beaucoup à tous les deux. Rappelez les enfants d'Alexis Potchke est à lire au Seuil. Un prochain roman bientôt ?
Espérons.
C'est en train ?
C'est en train.
Il écrit tous les soirs, il raconte ses journées à son cahier, Alexis Potchke. Tous les romans d'Anne Goscinny sont publiés chez Grasset, Le Père éternel, Sous tes baisers ou encore Le sommeil le plus doux. Et je recommande aussi la série que vous co-signez avec Catel, la dessinatrice, des livres pour enfants à partir de 8 ans, c'est ça ?
Oui, je dirais de 9 à 13 ans et le volume 5.
Le monde de Lucrèce chez Gallimard Jeunesse. Je vous souhaite une chouette soirée, comme le dirait le petit Nicolas.
Merci.
Merci à tous les deux, à bientôt sur Inter. Yeah.